Alors, petit contretemps là, avec la coroner en chef qui doit être là dans les prochaines minutes. On va faire un petit détour. C'est pas inintéressant, ce papier en provenance de Toronto, parce qu'on en a déjà parlé avec Christian Page, là. Les histoires de rituels où des animaux sont mutilés, sont tués. Souvent, c'est associé à des phénomènes religieux, à des sectes religieuses de ce genre-là. Alors là, ce qui se passe, c'est que la police de Toronto est entrée dans un quartier et puis là, ils se sont mis à trouver des chats morts et des chats morts mutilés à un point tel que là, ils ont dit, écoutez, ça ressemble pas à des chats, par exemple, qui auraient été attaqués par un renard ou un coyote. Il semble bien que ce soit des humains qui aient mutilé ces chats. Et donc, on va se tourner vers Christian Page, notre enquêteur du paranormal, notre spécialiste des théories du complot. Bonjour, Christian.
Salut, Bernard.
Bon, qu'est-ce que c'est que c'est cette espèce de fascination morbide avec les animaux qu'on mutile, qu'on démembre, qu'on tue?
Ouais, je dois t'avouer que tu as un intervenant qui est peu objectif parce que je trouve, moi, que tuer des animaux ou martyriser des animaux, c'est tout à fait épouvantable. Hein? Ça fait partie pour moi des crimes là, très élevés sur ma liste. T'sais. Et effectivement, quand on lit, je suis un grand amoureux des chats, et quand on lit un truc comme celui-là, j'ai toujours un peu des frissons. Et comme tu dis, donc, c'est la police de York. Hein? York, c'est une banlieue de Toronto, qui dit avoir trouvé au cours des dernières semaines 4 chats mutilés, dont 3 retrouvés sur un terrain de jeu, en fait un espace qui est consacré au baseball dans la ville de Vaughan. C'était le 19 mai dernier. Et comme tu l'as si bien mentionné, ces animaux, ces chats, présentent des blessures qui montrent très clairement qu'ils n'ont pas été tués par des prédateurs, mais qu'il y a eu intervention humaine. Et c'est pas la première fois dans le secteur qu'on fait cette macabre découverte. En 2013, 6 têtes de chats décapitées avaient été retrouvées dans la circonscription justement de York Simcoe durant une période de 1 mois seulement. Et puis en 2016, sur une période de 11 mois, 17 animaux mutilés ont été retrouvés dans le même secteur. Et là, on avait des chats, on avait des coyotes, on avait même un lapin. Et dans ces cas-là, les animaux avaient été mutilés, mais avaient été également disposés d'une manière, sans que les policiers donnent trop de détails, mais de manière plus ou moins ritualistique. Bon. Alors évidemment, on peut se poser la question, bon, qui fait ça? Généralement, c'est pas la première fois qu'on mutile des animaux. On en trouve malheureusement trop souvent. Et quand les policiers mettent le grappin sur les auteurs, c'est souvent de jeunes adolescents qui ont une espèce de fascination pour le morbide et puis qui ont décidé de faire des trucs semblables. Heureusement, ça ne va généralement pas plus loin. Hein,
mais ça va déjà assez loin. Perds pas ton idée, Christian, parce que honnêtement, faut qu'il y ait quelque chose qui roule pas rond dans ta tête pour que tu trouves plaisir à prendre un chat ou un chien ou un animal, peu importe, et à le décapiter, puis à planter sa tête sur un poteau, ou je ne sais trop. Je veux dire, c'est pas normal, là, tu sais.
Voilà, j'allais poursuivre justement avec cette idée-là, parce que heureusement, généralement, ça va pas plus loin. Ils sont des jeunes, ils ont passé une soirée, ils ont fumé un peu de marijuana, ils ont bu, ils ont décidé, bon, de se faire un truc un peu macabre. T'as quelques jeunes là-dedans également qui vont se retrouver dans des espèces de rituels mystico-satanique, mais ça ne va pas plus loin. Hein. C'est, bon, on a mutilé un chat, on a renversé quelques pierres tombales dans un cimetière et ça s'arrête là. Malheureusement, on le sait depuis les années 70 avec le profiling que le FBI fait sur les tueurs en série. Malheureusement, l'une des caractéristiques que l'on retrouve à peu près à la base de tous les tueurs en série, c'est cette fascination pour le morbide dès la plus jeune enfance et surtout le fait de torturer ou de décapiter, mutiler des animaux. Donc, si évidemment...
Ça pourrait être un premier signe. Un tueur en série commence pas par tuer un être humain, il va commencer par mutiler des animaux.
Voilà. D'abord, une fascination pour le morbide. L'étape numéro 2, la torture et la mutilation d'animaux. C'est à peu près un dénominateur commun qu'on retrouve chez tous les tueurs en série. Donc, si on met le grappin sur les gens qui ont fait ça, en supposant que ce sont des jeunes, ben, je pense que les parents de ces jeunes-là devront sérieusement se questionner et peut-être être plus préoccupés que de simplement se dire, ah, c'est une frasque d'adolescent. Non, ça peut cacher quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui, dans quelques années, pourrait nous entraîner sur des chemins beaucoup plus morbides.
Donne-moi un exemple ou deux là, de tueurs en série célèbres qui ont commencé justement par la mutilation d'animaux.
Ben, je t'en donne deux de mémoire récente. On a Jeffrey Dahmer, qui est probablement l'un des tueurs en série les plus terrifiants que les États-Unis ont connus ces 20-30 dernières années. On le surnommait le cannibale de Milwaukee, ça se trouve au Wisconsin. Et entre 1978 et 1991, ce Jeffrey Dahmer a commis 11 meurtres. Il gardait des morceaux de ses cadavres dans son réfrigérateur. Il en a consommé quelques-uns. Dans le cas de ses victimes, il prenait une perceuse, leur perçait des trous dans la tête dans lesquels il vidait de l'acide dans le but d'en faire des zombies sexuels.
Or, quand on regarde... Qu'est-ce qu'ils faisaient ça de leur vivant?
Oui, de leur vivant. Donc, ils perçaient des trous dans leur crâne et vidaient de l'acide en espérant en faire des zombies sexuels. Tu comprends que ces victimes, tous des jeunes hommes, sont tous décédés de ça. Et éventuellement, bon, Dahmer a été arrêté, condamné pour ses crimes et il a été tué en prison par un coup de détenu. Il y a eu une bagarre et il est mort en prison. Et quand on regarde la feuille de route de Jeffrey Dahmer, on découvre que très rapidement, vers l'âge de 6 ou 7 ans, il était connu à la fois de sa grand-mère, chez qui il vivait en partie, et des gens autour, pour être le petit garçon qui torturait des animaux et, dans certains cas, donc, tuer les chiens ou les chats de ses voisins. Mais, évidemment, on était loin de s'imaginer que quelques années plus tard, le Jeffrey Dahmer en question deviendrait le cannibale de Milwaukee. Plus récemment, wow, aussi, un tueur qui a fait la manchette, un type qui s'appelle Gary Ridgway, et tu comprendras pourquoi il est connu dans l'univers des tueurs en série. On lui rapporte entre 49 et 200 assassinats. Et ce sont des crimes qu'on le surnommait le tueur de la Green River. Il a commis ces crimes aux alentours de Seattle, dans l'État de Washington, sur une période allant de 1982 à 2001. Et alors qu'il était jeune, il avait un frère notamment, et son frère a raconté dans des entrevues que même lorsqu'il était jeune, ce Gary Ridgway s'amusait à torturer, mutiler, tuer des animaux. Et même si les gens autour de lui trouvaient que c'était un drôle de trait de caractère, personne n'a pris ça suffisamment au sérieux et éventuellement, il est devenu l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire américaine.
J'ai des auditeurs qui m'écrivent Luca Rocco Magnotta.
Bien sûr, c'est un crime près de chez nous et il a commencé avant de commettre son meurtre dont il a filmé et dont tout le monde a entendu parler. Bon, on évitera les détails morbides.
Ouais, ouais.
Mais il avait déjà été ciblé par des internautes parce qu'il s'était amusé à faire des vidéos dans lesquelles il torturait, mutilait et tuait des chatons. Et donc ça avait immédiatement attiré l'attention d'Internet. Il avait mis cette vidéo sur Internet. Des gens, un peu comme toi, comme moi, on a vu ça et ont été préoccupés par cette violence gratuite et avaient déjà informé les autorités qui, malheureusement, au départ, n'ont pas pris ça trop au sérieux.
Mais c'est ça que j'allais dire. Christian, si on doit tirer une leçon de tout ça, c'est que si on a connaissance que quelque chose comme ça se fait près de nous, on peut penser que c'est un jeu, on peut trouver l'adolescent un peu débile, mais faut pas niaiser avec ça, là. C'est ça la leçon, là.
Malheureusement, c'est ça. Il y a trop de... L'histoire est remplie d'événements ou d'incidents où des jeunes ont mutilé des animaux pour quelques années plus tard tuer des êtres humains. Donc, il faut effectivement réagir promptement si quelqu'un dans votre entourage a ce morbide trait de caractère.
Christian Page, notre spécialiste de tous ces phénomènes bizarres. On est quand même content que tu sois là pour...
Oh, merci, c'est rassurant.
Non, mais tu sais, je dis... merci, Christian.
Okay. Ça fait plaisir.
À la prochaine. Oui, ben, je suis un petit peu distrait parce que là, on vient tout juste de me confirmer à l'oreille que tout de suite, de l'autre côté de la pause, donc la coroner en chef du Québec sera là pour nous parler de cette enquête publique sur les décès survenus dans les milieux d'hébergement pour aînés.